Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors ce matin, Daniel, nous allons parler de ce fameux discours tenu par Benjamin Netanyahou devant le Congrès. Il est arrivé mardi matin en Israël, aux États-Unis, pardon. Il a plusieurs personnes à rencontrer et il y avait ce discours en point d'orgue. Alors pour commencer, Daniel Haber, que devons-nous retenir de ce discours devant le Congrès?
Alors c'était très attendu. Ça se passe au cours d'une séquence quand même où il se passe quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, il va voir encore Biden, il va voir Kamala Harris, il va voir Trump. Et au fond, c'est ça l'essentiel, c'est l'importance de la relation États-Unis-Israël qu'il a vraiment mis en avant. On va en parler. Je mentionne simplement qu'il y a eu quand même l'attaque des Houthis sur Tel Aviv, qui est quand même un événement majeur. Et puis, il y a eu à Pékin une réunion organisée par les Chinois, de 14 organisations palestiniennes signant ensemble un accord d'unité. Ça mériterait qu'on en parle très prochainement en détail parce que c'est une des clés quand même des choses pour l'avenir. Mais pour répondre à votre question sur le discours de Bibi, alors d'abord, il a eu 60 ovations debout, quoi. Donc, c'est le double de ce que tout le monde a d'abord. C'était sa quatrième intervention. C'était pas la plus intéressante, pas la meilleure, mais elle a fonctionné parce qu'au fond, Bibi, qui est un homme politique, il commence par analyser à qui il parle. Donc, il n'a pas fait un discours de géopolitique. Il a dit des choses au fond très simples, presque simplistes, mais qu'il faut rappeler. Donc, il a rappelé que c'est Israël qui a été attaqué. Il a rappelé l'horreur du massacre, et il en a conclu, c'est pas une guerre de civilisation, c'est une guerre entre la barbarie et la civilisation. Et nous, Américains et Israéliens, on est du côté de la civilisation. Pour les députés, les sénateurs qui sont proches des opinions publiques, parce que finalement, un discours comme ça, c'est pas pour des stratégies, c'est pour des opinions publiques. Et donc, il sait faire parce que ben, il parle bien anglais et il dit des choses au fond très marketing, hein, très très simpliste. La deuxième chose qui était claire, c'est que cette relation entre les États-Unis et Israël, elle est ancienne. Elle s'est jamais autant manifestée de façon positive que cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une minute de perdu dans le support américain. Biden est venu quelques jours après lui-même. Les deux porte-avions ont été envoyés au large du Liban. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Des portes énormes comme logistique. Et à aucun moment il y a eu véritablement de mise en question de l'aide américaine. On a encore voté 14 milliards au moment où on votait des milliards pour l'Ukraine. Biden a en profité pour faire voter des milliards pour Israël. Et d'ailleurs, il a reçu son lot de remerciements, Biden, à plusieurs reprises, alors que pas forcément. Il est pas candidat, il est plus candidat. Habilement, Bibi a félicité Biden. Même les républicains ne pouvaient pas faire autre chose que d'applaudir puisqu'il est plus candidat. Donc, il représentait les États-Unis. Donc, mais quand même, on sent percer une inquiétude chez les Israéliens. Il se passe des choses aux États-Unis qui mettent en péril cette alliance, cette étroitesse des liens entre Israël et les États-Unis. La première chose, c'est que bah, déjà au mois de novembre, tout va changer. Il y aura un nouveau président, des nouveaux gouverneurs, des nouveaux députés, et un tiers des sénateurs va être renouvelé. Donc il y a tout un personnel nouveau qu'on ne connaît pas. Donc il faut préempter tout ça. La deuxième chose, c'est qu'on sait que la politique extérieure américaine, elle a mis comme priorité la Chine. Et donc l'Europe et le Moyen-Orient sont des priorités secondaires. Et puis la dernière, c'est plus importante, depuis Obama, et c'est suivi par ses successeurs, il y a vraiment le désir de ne plus être impliqué directement dans un conflit. Et ça, il l'a bien récupéré dans son discours, Bibi, en disant, c'est nous les bottes sur le terrain, boots on the grounds. On vous demande simplement une chose. Et il a rappelé ce que disait Churchill aux Américains au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donnez-nous des armes, donnez-nous des outils, et on se battra. On ne vous demande pas de vous battre à notre place. Ça, c'est un discours que les Américains adorent. Défendez-vous vous-même et nous, on va vous fournir des choses. Et il a mis ça en place très, très forcément. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il y a cette crainte, ces inquiétudes qui sont aussi économiques. Par exemple, la Startup Nation, elle est alimentée sans arrêt par des investisseurs privés américains, d'ailleurs qui ne sont pas juifs, hein, les grands fonds d'investissement investissent. Ce n'est pas le moment d'investir en pleine guerre, donc ça ralentit. Donc on voit bien que les Américains, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, c'est vital pour Israël. Et donc il fallait mettre les points sur les i, et c'est ce qu'il a fait. Et au fond, il a voulu clarifier le débat en rappelant les choses de fond, à de base, c'est qu'on est dans le même camp. Et qu'il a désigné alors très clairement l'Iran, hein, c'est l'Iran, et en disant bon ben c'est l'Iran avec tous ces donc c'est pas le Hamas, hein, c'est l'Iran qui est derrière, et il a dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut relancer les accords d'Abraham, il faut les étendre, mais il a dit il faut aller plus loin, et il a quasiment dit en gros il faut créer une OTAN du Moyen-Orient. C'est-à-dire une alliance atlantique, d'ailleurs il l'appelle l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham, une alliance avec évidemment Israël, les États-Unis et les pays arabes qui sont menacés par l'Iran. Une vraie alliance, alors là, on est vers quelque chose de neuf qui nécessite pour les Américains de s'impliquer. Donc ça ne se fera pas avant qu'on ait un nouveau président, mais on voit bien que c'est là qu'on va. Et puis sur le présent. Quand il a parlé de la guerre de Gaza, il a rappelé quand même ce que c'est que la victoire à Gaza. Elle est totale. Hein. Il faut détruire le Hamas et récupérer les otages. Et donc, on en est loin. Ça veut
Pour
dire
revenir
que.
sur la guerre à Gaza, Daniel Abert, devant le
Oui.
Congrès, il y a eu des protestations où on a vu des signes Free Palestine. À l'intérieur du Congrès, Rachida Tlaib, qui est membre du Parti démocrate, a tenu un signe où il était écrit criminel de guerre et coupable de génocide au moment où le Premier ministre parlait. Selon vous, c'est un coup dans l'eau?
Oui, si vous voulez, il y a des extrémistes dans le parti démocrate. Celle que vous citez, c'est une palestinienne d'origine. Là aussi, il y a Cortès aussi, il y a trois ou quatre députées femmes très, très agressives. Elles sont ultra minoritaires, c'est comme en France, la France insoumise. Ils sont ultra minoritaires et ils crient d'autant plus fort qu'ils sont minoritaires. Au fond, Bibi a balayé tout ça par un sourire et en disant, ils sont manipulés par l'Iran, et l'Iran les considère comme des idiots utiles. Et l'expression idiot utile a été utilisée au moment de l'Union soviétique. Et au fond, si on devait résumer le discours de Bibi, il a dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a formé une alliance contre l'Allemagne. Et après la guerre, on a dû former une nouvelle alliance contre l'Union soviétique. Et maintenant, on a un nouvel ennemi commun à tout l'Occident, c'est l'Iran. Il a mis le doigt dessus, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui est à la fois contestataire et islamiste. Et donc, il faut une alliance de même nature, donc un NATO. Donc, ça, c'est allé assez loin. Ça a touché certainement les députés parce que c'est leur discours classique. Maintenant, les décideurs américains, les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, ils ont d'autres préoccupations plus compliquées, mais ils seront peut-être plus là après les élections de novembre. Il y aura certainement un nouveau gouvernement. Donc il a pris date. Il a pris date en rappelant au fond les basiques. Et quant aux négociations, malheureusement, sur la fin de l'opération à Gaza, il a rappelé qu'Israël devra rester militairement à Gaza longtemps. Et par contre, l'administration civile peut se faire par des Arabes au sens large, y compris par des pays arabes qui ne sont pas des Palestiniens. Voilà, donc c'est un
C'est
discours
un
assez
sujet
convenu.
sur lequel on pourrait durer beaucoup de temps. Malheureusement, on arrive presque à la fin de notre entretien, Daniel Abert. Il y a une dernière question que je voulais vous poser. Ce discours de Bibi face au Congrès a-t-il changé ou a-t-il conservé les mêmes relations entre les États-Unis et Israël à l'heure qu'il est?
Je ne pense pas que le discours l'ait fait. Ça a juste rappelé que, parce que tout de même, on avait quand même des démocrates et des républicains qui applaudissaient ensemble, et il a fait applaudir ensemble, et Biden et Trump. Donc finalement, si pour répondre à votre question, je dirais au fond oui, en rappelant toujours que l'intelligence de la relation d'Israël avec les États-Unis, c'est de jouer les deux parties ensemble. parce qu'au fond, ils sont tous les deux les défenseurs de la démocratie, de la liberté. Et on avait quand même beaucoup reproché à Bibi d'être trop proche de Trump, donc il est toujours, hein, et il le sera encore plus si Trump gagne, mais il a pris un tout petit peu ses distances en rappelant qu'il est l'ami des Américains en général, à droite, à gauche, démocrate et républicain. C'était un discours habile qui ne change pas la face du monde, mais qui rappelle au fond les bases, et c'est toujours utile.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir analysé ce discours de Benjamin Netanyahou face au Congrès avec nous sur Radio Judaïka. Et puis on vous retrouve lundi pour des conversations géopolitiques mondiales.
À très vite.